Jonathan, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire à cette caméra le clap le plus sexy qu'elle ait jamais vu? On a dit le plus sexy. Salut les rebelles intelligents, je suis actuellement à Tallinn en Estonie. Je suis actuellement avec Jonathan Rigottier. Yes!
Salut tout le monde.
Ça va Jonathan?
Super. Bah, bienvenue en Estonie. Hein, et Olivier est en train de découvrir ce nouveau pays avec plein de choses intéressantes pour les entrepreneurs qui veulent gagner du temps et ne plus se prendre la tête avec la bureaucratie, etc. Enfin, on va en parler dans cette interview.
Donc en fait, c'est toi qui fais l'interview, c'est ça?
Ok, je suis un peu fort.
donc, voilà, je suis en Estonie et j'en ai profité pour aller voir Jonathan. On s'était déjà rencontré il y a quelques années au Web2 Connect.
Web2 Connect en 2013.
Ah, je te rappelle les dates, waouh, impressionnant.
Et voilà, puis j'entends souvent parler d'Olivier à travers mon frère Maxence, qui est un des tout premiers élèves de Blogueur Pro. Hein,
exactement.
En 2010, je crois qu'il a fait partie de tes tout premiers élèves.
Ouais, donc Maxence Rigottier, dont vous avez peut-être entendu parler sans doute, qui a aussi une chaîne YouTube. Voilà, sur l'entrepreneuriat,
sur le web marketing, les paris sportifs, etc. La course à pied également.
Et effectivement, un des élèves de pionniers de Blogueur Pro, hein, qui, comme tu dis, s'est inscrit, je crois, à la toute première, tout premier webinar où j'ai ouvert les inscriptions en fin 2010. Donc, waouh, quoi. Ça commence à dater. Et donc, je voulais qu'on fasse cette interview pour discuter un petit peu de ton parcours qui est très intéressant, de pourquoi tu t'es installé en Estonie, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour les entrepreneurs ici. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du programme de e-résident de l'Estonie. Alors, ce n'est pas ce que toi tu as fait parce que tu es un vrai résident, tu n'es pas juste un e-résident. Mais justement, on va parler de ça et puis aussi de est-ce que c'est intéressant fiscalement l'Estonie. Beaucoup de gens se posent la question, non seulement à travers le programme e-résident, mais aussi pour y vivre. Et donc, on va parler un petit peu de ton quotidien d'entrepreneur ici. Mais d'abord, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est à la fois intéressant pour toi et pour Maxence, c'est que vous venez tous les deux d'un endroit assez particulier quand même.
Alors, on vient d'un petit village de 60-70 habitants. On avait regardé hier la démographie pour s'amuser. Et voilà, c'est vraiment un endroit perdu au milieu de nulle part. Il n'y a même pas Internet aujourd'hui en 2018. Hein, ça ne fonctionne pas.
Il n'y a pas Internet ?
Alors, il faut passer par une connexion satellite. Mais s'il y a du vent ou il pleut, là, vous pouvez oublier Internet.
Il n'y a pas de 3G ?
Il y a 3G qui passe à certains endroits du village en se déplaçant.
En levant la main comme ça.
Voilà, exactement. Mais partout, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'était notre point de départ. Mais ce qui était bien, c'est que c'était un catalyseur pour découvrir autre chose et voilà, se dire il y aura des choses bien plus intéressantes. Ça m'a amené à pas mal voyager, mon frère également, à découvrir de nouveaux pays, notamment le Japon où j'ai passé 4 ans. C'est le pays où j'habitais avant de venir en Estonie.
Justement, avant de passer au Japon, donc c'est ça, tu étais dans un village de 100 habitants grand max, on va dire 300 avec les vaches.
Exactement, plus de vaches que
si vous avez vu le clip de Camini à l'époque, il y a déjà plus de 10 ans sur Marley Gobon, là c'est la même chose.
C'était pareil pour Châtel-Moron.
Voilà, donc tu aurais pu faire le Châtel-Moron.
Exactement, on aurait pu être des super rappeurs.
Ouais, exactement.
Voilà, donc, j'ai fait mes études.
Et ça t'a vraiment motivé, tu me racontais, tu regardais un atlas et ça te faisait rêver en disant…
J'imaginais les endroits où je pourrais voyager dans le futur, où je pourrais aller, voilà, j'imaginais l'Amérique du Sud… l'Asie, etc. Enfin, tous ces endroits que je pourrais découvrir plus tard, parce que dans le village, bien sûr, c'est assez limité le nombre d'interactions de personnes que vous pouvez rencontrer. Et c'est ça qui m'a amené tout de suite, dès que j'ai eu 18 ans, à déjà partir à Lyon pour faire mes études. Donc, ça peut paraître un peu ridicule de se dire d'aller à Lyon, mais quand on vient d'un petit village, c'était déjà un peu une sorte d'exploration, parce que voilà, beaucoup plus grosse ville, etc., beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choses. Après, une fois que j'étais à Lyon, j'ai décidé de voyager, de découvrir d'autres pays. Je suis allé au Pérou. Ensuite, j'ai fait une année d'études à l'étranger, à Barcelone, pour apprendre l'espagnol.
Ah, donc t'es vraiment lâché là.
Voilà, exactement.
T'es en mode, waouh, il faut
découverte
vraiment que
du monde.
Je quitte mon petit trou de campagne. Alors,
au début, c'était première fois qu'on va en Espagne, ça paraissait un truc énorme, etc. Bon, maintenant, ça me paraît moins être le truc de fou. Mais c'était assez intéressant. Après, petit à petit, je suis allé à Dublin pour apprendre l'anglais. Donc ça, c'était en 2009. Parce que quand vous voyagez, l'anglais, c'est indispensable. S'il y a bien une langue à apprendre sur la planète, c'est l'anglais. Parce que vous allez n'importe où. Japon, Chine, même Amérique du Sud.
J'ai toujours trouvé quelqu'un qui… Ouais. Enfin, tout le monde ne parle pas anglais, loin de là.
Ouais, mais
tu trouves toujours quelqu'un qui parle anglais.
Qui passe le mieux quand on voyage pas mal. Et du coup, je suis allé à Dublin. J'ai rencontré pas mal de Japonais là-bas dans mon école. Et c'est ça qui m'a donné envie de découvrir ce pays. Et j'y suis allé une fois pour voir, ça m'a beaucoup plu, j'y suis retourné plusieurs fois. J'ai passé 4 ans en tout entre Kyoto, Osaka, Tokyo, étalé sur plusieurs années. Et à la suite de ça, c'est ce qui m'a amené à l'Estonie.
Donc, du Japon à l'Estonie, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé?
On habitait à Tokyo, donc avec Yoko.
Qui est ta femme.
Exactement.
Qui est japonaise.
Qui est japonaise. Alors moi, le Japon, ça me convenait très bien. Si vous êtes déjà allé, vous allez voir la qualité des services. Les gens sont accueillants, ils vont vous aider, etc. Mais Yoko, elle travaillait dans une organisation japonaise. Donc, les conditions de travail, c'était pas formidable. Vous avez des réunions le week-end, le soir. Vous savez pas quand vous allez rentrer chez vous parce qu'il faut attendre que le manager vous donne la permission pour rentrer. Même si vous avez terminé, voilà, c'est juste qu'il faut être présent, c'est comme ça. Les vacances, faut oublier ou alors il faut vraiment serrer des coudes pour avoir une semaine, etc. Enfin, voilà, c'était pas des conditions qui la faisaient rêver, surtout qu'elle habitait en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc, pour les gens qui ont habité que au Japon, ça leur paraît la norme. Ils sont pas choqués parce que voilà, ils ont connu que ça. Mais pour les gens qui ont vécu à l'étranger, ils se disent c'est pas terrible quand même. On peut faire mieux. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle voulait quitter son travail. Et on s'est dit où est-ce qu'on pourrait aller pour changer aussi d'ambiance, que Tokyo c'est une grosse ville. Donc c'est intéressant, on peut faire plein de choses, etc. Mais c'est aussi un petit peu étouffant à la longue et le coût de la vie aussi est très élevé. Donc quand on bosse sur Internet comme moi et comme Yoko ensuite, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'habiter dans un endroit où le coût de la vie est hyper élevé, à moins d'être vraiment amoureux de la ville. Sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, il fallait mieux aller dans un endroit où c'est plus accessible. Donc on a mis toutes sortes de paramètres, déjà la langue. On voulait un endroit qui parle anglais pour pas avoir à passer par une langue locale comme Yoko, elle parle pas le français ou on voulait pas s'amuser à apprendre je sais pas le hongrois ou le bulgare ou voilà, ça prend du temps, c'est long,
c'est clair,
et puis peut-être qu'au bout de quelques années on va changer de pays, donc il faudra à nouveau redémarrer. Autre critère, on voulait quelque chose un petit peu d'innovant, là où pas tout le monde va. Par exemple, la Thaïlande, c'est un peu le truc à la mode pour les gens qui travaillent sur Internet. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent.
Et toi, comme tu es rebelle, voilà. Tu disais non, je ne peux pas aller
qu'est-ce
là où tout le monde va.
Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir.
Je veux défricher un endroit.
Voilà, exactement. Et il y a un endroit friendly pour les entrepreneurs, parce qu'à la Thaïlande, si vous créez votre société là-bas, vous êtes parti pour une pile de papier comme ça. Donc, bon courage, mais pourquoi pas. Et voilà, un endroit qui soit sympa pour les entrepreneurs, fiscalité, pourquoi pas, plutôt agréable pour les entrepreneurs qui parlent anglais, comme je disais, coût de la vie modéré. Donc, en mettant tous ces paramètres dans la balance, l'Estonie, ça nous apparaît une bonne solution. Donc, au début, on est parti avec les valises en se disant, si ça ne nous plaît pas, au pire, on peut toujours changer. On n'est pas bloqué, mais on va voir. Voilà. Et finalement, ça nous a plu. On est arrivé au mois de mai, qui est le meilleur moment de l'année, puisqu'il fait beau, il y a du soleil, mais en même temps, il ne fait pas trop chaud. Donc voilà, c'était très bonne surprise en arrivant, parce qu'on s'imaginait, je ne sais pas, ça allait être gris ou ce que les gens imaginent.
Et là, il fait magnifique, mais apparemment, tu me dis quand même que c'est…
Alors là, cette année, il fait hyper chaud. Pour les standards estoniens, on a vu des pointes à 30, 32 degrés. Pour ici, ça fait beaucoup, mais sinon, on est plus vers les 20, 25. Mais voilà, c'est agréable pour l'été. Je trouve que c'est même plus agréable que l'Europe du Sud. Si je devais partir quelques mois de l'année, ça serait l'hiver plutôt que l'été.
Oui, voilà. En l'été, l'Europe du Nord, c'est parfait. T'évites les grandes chaleurs estivales.
Voilà,
OK, donc l'Estonie.
Exactement, donc c'est ça qui nous a amené en Estonie. Donc petit à petit, on a découvert un petit peu comment ça marchait pour les entrepreneurs. Et là, plein de bonnes surprises déjà.
Donc comment tu avais entendu parler de l'Estonie à la base? C'est grâce à leur programme de e-résident?
Même pas, je crois que c'est un collègue de Yoko qui en avait parlé rapidement, qui avait un petit pays en Europe de l'Est, qui faisait tout en ligne, etc. Donc moi qui travaille sur Internet, ça nous a intéressé à tous les deux. On s'est dit, pourquoi pas tester? En plus, personne n'a jamais testé. Donc pourquoi pas, peut-être une bonne surprise. Et donc en arrivant, on a fait nos démarches pour créer une société,
etc. Donc, t'es arrivé, tu savais même pas comment ça marchait, grosse. T'es vraiment arrivé ici en aventurier, quoi.
Exactement.
Et Yoko, elle n'avait pas besoin de visa au début
Justement, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mais on savait que plus ou moins, elle allait pouvoir avoir un visa vu qu'on était mariés. Donc en général, c'est possible. C'est juste qu'on ne savait pas les détails des démarches. Est-ce que ça allait être long? Qu'est-ce qui allait être nécessaire, etc. Mais finalement, ce n'est pas très compliqué. Quand vous arrivez, que vous êtes citoyen de l'Union européenne, de la Suisse, la Norvège, il y a une liste de quelques pays. Voilà, il y a quelques démarches à faire. Dès que vous avez votre appartement…
Oui, c'est une formalité.
Une formalité.
Et donc, à partir du moment où tu es marié…
Moi, j'ai fait ma résidence.
Et
vu que j'étais marié, il a fallu quelques documents pour prouver qu'on était bien marié, etc. Et ensuite, elle a eu sa résidence comme moi, 5 ans. Vous aurez 5 ans si vous venez en Estonie. C'est automatique pour les citoyens de l'Union européenne. Et puis pour les autres, elle a eu 5 ans comme j'ai eu 5 ans, parce que c'est exactement pareil, c'est un visa de famille.
Alors en quelques mots, quels sont les avantages de l'Estonie pour les entrepreneurs?
pour les entrepreneurs, alors déjà, vous pouvez créer votre société en 1 heure. Donc ça, c'est formidable. Vous pouvez vous lever le matin, vous dire, tiens, ce matin, allez, je vais créer ma société.
J'ai rien à faire, je vais créer ma boîte.
Vous allez sur Internet, vous allez sur le site dédicacé à la création de société. Voilà, vous mettez le nom de la société, le capital, voilà, il y a quelques petites démarches, mais rien de très compliqué. Et ensuite, bah, vous attendez 1 heure que ça soit validé. Il faut payer les 190 euros de création de la société en ligne.
Donc, tu as besoin d'une carte spéciale pour faire ça.
Ouais, il faut avoir votre carte de résident avant, voilà, absolument.
Donc, la carte de résident. Il faut quand même préciser qu'ici en Estonie, toutes les démarches en ligne avec le gouvernement se font grâce à cette carte.
Voilà.
C'est ça, hein. C'est une carte à puce.
Exactement.
Et donc, on vous fournit, donc, dès que tu deviens résident de l'Estonie, on t'en donne une.
Absolument.
On te donne aussi un petit lecteur en USB que tu branches.
Voilà, et vous avez deux codes PIN. Le code PIN 1, c'est pour s'identifier, pour se loguer. Et le code PIN 2, c'est pour signer digitalement.
Voilà.
C'est-à-dire
et
que
la carte e-résident, c'est la même chose. Hein.
Voilà, c'est la même chose.
C'est juste qu'on n'a pas accès exactement au même service, mais quasiment.
Exactement.
Exactement. Donc, pour créer ta boîte, tu prends ta carte.
Exactement.
Tu prends ton lecteur USB que tu branches,
exactement,
tu te logues sur le site, tu t'authentifies grâce à cette carte.
Voilà, c'est ça.
Et donc, c'est super sécurisé. Et à partir de là, tu peux créer ta boîte en quelques minutes.
Voilà, ça prend 10 minutes. Il y a une vidéo de France 2, justement, ils ont fait une démonstration en 10 minutes, c'était fait. Après, il faut attendre que la personne enregistre, vous la valide, mais ça prend 1 heure à peu près. Donc, vous recevez un email avec votre numéro de Siret. Et voilà, vous pouvez, dans la foulée, donc si vous démarrez ça à 9h, je ne sais pas, à 10h30, vous dites, bah tiens, je vais aller à la banque du coin, ouvrir mon compte pour la société et l'après-midi, bah, vous pouvez recevoir votre premier virement, votre premier paiement sur votre société qui a été créé le matin à 9h.
Mais il faut aussi que tu ouvres le compte en banque du coup.
Voilà, c'est ce que je dis. Dans la foulée que vous avez votre numéro de Siret, vous pouvez aller à la banque, je ne sais pas, 5 minutes après, à la banque de votre choix, vous pouvez y aller, vous montrez le numéro de Siret, il vous trouve dans le registre et vous avez votre compte bancaire.
Niveau administratif, c'est vraiment facilité, donc tu peux tout faire en ligne.
Exactement.
Est-ce qu'ils envoient encore du courrier papier ou tout se fait numériquement ?
Il n'y a pas de courrier papier. Le courrier papier, c'est juste les trucs reliés avec les autres pays. Genre, vous ouvrez un compte en bourse pour votre société bah, dans un autre pays, bon, là, il y aura du papier, mais Estonie à 100%, il n'y a plus de papier. Donc ça, c'est assez intéressant, assez pratique. Bah, quand on voyage, etc., ou même si on ne voyage pas, c'est quand même plus pratique de ne pas avoir de papier à ranger, qu'on ne sait plus où on les a mis, etc. Enfin, voilà, pour les minimalistes, c'est parfait. Et autre avantage aussi, bah, c'est la fiscalité pour les entrepreneurs, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Alors, ce n'est pas un paradis fiscal où vous payez zéro, hein. Il y a de la fiscalité, mais ce qui est bien, c'est que c'est extrêmement simple à comprendre. C'est soit vous payez sous forme d'un salaire, donc vous décidez, bah, là, ce mois, je me verse 500 euros de salaire, par exemple.
Donc, tu peux choisir chaque mois.
Voilà, alors là, oui, absolument. Vous pouvez arrêter, augmenter, diminuer, voilà, il n'y a pas de règle, bah, c'est vous qui décidez. Et c'est extrêmement clair combien vous devez payer. C'est un truc qui est assez surprenant parce qu'en France ou dans d'autres pays, c'est pas très clair. En fait, il y a plein de lignes sur la fiche de salaire. C'est assez difficile de prévoir, je sais pas, avec les conventions collectives, les congés payés, les ceci, les cela. C'est assez complexe à gérer, en fait. Ça demande du temps. Alors que là, c'est extrêmement simple. Il y a juste le salaire brut, les 20% de income tax, d'impôt sur le revenu qui sont prélevés à la source. Alors, dans certains cas, il y a des exonérations.
Donc, je suppose qu'il y a ces 20%, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas flat, ça dépend
de
ton niveau de revenu.
Ça dépend du niveau de revenu, exactement.
Donc, tu as un impôt sur le revenu qui est automatiquement déduit à la source, donc ça,
voilà,
c'est bien.
Et après, tu as les cotisations sociales. Vous ajoutez les cotisations sociales et c'est terminé. Et ce qui est bien, bah, c'est que le mois d'après, vous avez jusqu'au 10, hein, par exemple, vous versez le salaire le 25 juin, vous avez jusqu'au 10 juillet pour payer et c'est terminé. On n'en parle plus. Pour la TVA, il y a jusqu'au 20 du mois suivant pour le gérer et c'est terminé. Et voilà, si vous versez un dividende…
Et tant que tu gardes l'argent dans la boîte, il n'y a aucun impôt à payer.
Voilà, exactement.
Et ça, c'est quand même pratique parce que du coup, tu n'as pas cette pression que tu as en France et dans beaucoup d'autres pays où finalement, à la fin de l'année, tu te dis « bon, j'ai fait beaucoup de profits, il va falloir calculer combien je sors de la compagnie, combien je reste dedans parce que sinon, je vais payer beaucoup d'IS ». Donc, il y a tout un calcul à faire chaque année dans la plupart des pays que là, il n'y a pas. Et du coup, tu peux te dire « je garde l'argent pour pouvoir réinvestir dans ma boîte ». Ça t'enlève vraiment une pression. Ok, tu peux aussi te payer sous forme de dividende. Ouais.
Voilà, exactement. Et on peut se payer également sous forme de dividende. Donc, c'est comme partout ailleurs, sur les bénéfices de l'année précédente, hein, vous pouvez vous verser. Et c'est pareil, en dividende, vous payez le mois suivant les taxes que vous devez payer sur le dividende et c'est terminé. Donc, c'est extrêmement simple. Hein. On ne va pas vous envoyer une lettre de vous dire il faut payer un truc un an après ou 18 mois après où on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est normal, etc. Là, ce qui est extrêmement carré.
C'est rapide, carré.
Voilà, soit vous versez
rien,
vous ne payez rien. Soit vous payez un salaire, bah vous payez les taxes jusqu'au 10 du mois suivant, c'est terminé, on n'en parle plus. Dividende, pareil. TVA, c'est jusqu'au 20. Et on n'en parle plus. Il n'y a pas de truc qui arrive un an après, 6 mois après, ou je sais pas, enfin, où c'est compliqué, où on reçoit un courrier, etc. Enfin, c'est vraiment extrêmement simple. Et ils envoient des rappels. Ça, j'avais trouvé ça sympathique. Parce qu'au début, on ne sait pas forcément comment ça marche. Et ils envoient un petit rappel pour vous prévenir quand il y a un truc qui doit être payé, pour éviter d'être se retrouver en impayé, etc. Ils vous font pas la mauvaise surprise comme au Japon de rien vous dire pour vous ajouter 10% en plus.
Ah, ils font ensuite. Ça au Japon.
Voilà, c'est pas très sympa, mais voilà, ils le font malheureusement.
D'accord. Et du coup, donc il y a, tu sais grosso modo à peu près estimer quel pourcent. Enfin, est-ce que par exemple tu payes grosso modo deux fois moins d'impôts qu'en France ou un tiers ou 60%?
Après, ça dépend de vos niveaux de revenus.
Ça dépend de plein de choses, mais on va dire.
Moi, j'avais fait une vidéo de simulation sur sur la chaîne de Maxence, justement, où j'avais pris des exemples d'un entrepreneur qui faisait 150 000 euros de bénéfices
par an,
où il se versait une partie salaire et une partie dividende. Et j'avais fait pareil pour l'Estonie et on passait en gros de vers les 45 à vue de nez à 8% en gros.
Donc, on passait de 45% de prélèvement en France
à 8% ici, voilà, en ayant pris les mêmes niveaux de dividendes et les mêmes niveaux de salaire, plus ou moins, voilà, pour faire une comparaison. Et autre effet important, c'est que le coût de la vie est moins élevé qu'en France. Donc ça compte pas dans les taxes, mais d'une façon, c'est aussi une sorte d'économie que vous faites.
Oui, parce que là, on est dans la capitale qui est censée être l'endroit le plus cher du pays, effectivement, les prix sont très raisonnables.
Voilà, exactement. Là, l'appartement où on tourne cette vidéo, il fait 80 mètres carrés, il est assez bien placé.
Il est quand même joli.
Il est assez joli.
Et il a un vitrail très sympathique.
Voilà, mon frère paye 950 euros, il était même à 900 euros, mais il voulait l'avoir tout de suite, il n'avait pas beaucoup de temps. Donc, ouais, il a mis un peu plus.
Et il y a même un sauna.
Et il y a même un sauna.
Parce que ici, c'est comme en Finlande, le sauna, il fait partie de la vie. Et en Finlande, il y a un sauna pour 3 habitants. Là, ça va être pareil ici. Donc, quasiment toutes les maisons, il y a un sauna.
Exactement.
Donc, ça fait 900 euros, effectivement. Enfin, 950, c'est vraiment bien. Je pense que les Parisiens, les Londoniens et tous ces gens-là, les Genevois, même les Bruxellois,
les Tokyoïtes aussi.
Waouh !
Ils aimeraient bien
ça.
Waouh !
Exactement. Ouais.
Donc voilà, c'est assez sympathique d'avoir tous ces avantages. Et autre avantage aussi de l'Estonie, c'est que ça vous incite à grossir votre business, à vous développer. Parce qu'en France, souvent, le mindset, enfin, c'est pas qu'en France, c'est de se dire si je grossis, je vais passer dans les tranches d'imposition supérieures, je vais payer plus d'impôts. Donc, ça a un côté, voilà, ça nous met une chape de plomb sur la tête. Mm-hmm. Alors qu'en Estonie, ça incite justement à grossir. Parce que plus vous grossissez, plus votre imposition baisse parce que vous payez en dividendes et le reste, vous le laissez sur la société. Imaginons que vous grossissez votre business à 1 million par an, par exemple. Mm-hmm. Votre train de vie, vous le maintenez plus ou moins pareil. Par exemple, 3 000 euros par mois, vous êtes imposé sur une base de 3 000 euros par mois, pas sur une base de 1 million. Du coup, en pourcentage, ça fait pas grand-chose. Ça fait vraiment, on doit être à quoi, 3-4%.
Mais du coup, il y a des gens qui doivent se dire, mais alors c'est quoi l'intérêt de monter son business à 1 million si toi, tu ne te payes pas plus derrière?
Parce que tu peux réinvestir avec ta société. Il y a des choses qu'on fait en nom propre. Par exemple, on se dit, je vais investir dans l'immobilier, je vais investir dans la bourse. Ça, vous pouvez le faire avec la société au lieu de le faire en nom propre. Du coup, en nom propre, c'est que les dépenses, l'hôtel, les restos, etc. Et tout ce qu'on fait d'habitude en son nom propre, acheter de l'immo, investir en bourse, on peut tout faire avec sa société. Et il n'y a pas besoin de holding, il n'y a pas besoin d'une foncière. J'ai un ami entrepreneur qui est venu ici, il était impressionné parce que justement, il imaginait un montage. Avec une holding, etc.
Oui, du coup, comme il n'y a pas d'IS, tu n'as plus besoin de holding. Effectivement. Voilà, parce que donc, juste pour résumer, en France et dans beaucoup d'autres pays, la holding, c'est un moyen finalement de faire des investissements sans avoir à payer l'IS. Parce que si par exemple, vous faites 100 000 euros en France, bon là, aujourd'hui, c'est 28% à l'IS. Bon, il y a des tranches, mais on va dire pour simplifier, il y a 28%. Donc, il y a 28 000 euros qui partent à l'État direct. Boum. Ensuite, vous allez vous verser le reste sur vous. Donc vous allez payer l'impôt sur le revenu. Donc autant pour moi la holding c'est pour pas payer d'IR, pas d'IS. Et du coup, vous aurez payé d'abord de l'IS puis de l'IR et seulement après vous allez pouvoir investir. Avec une holding en fait c'est une société que vous créez et qui va à laquelle vous allez pouvoir transférer l'argent que vous avez gagné et du coup vous avez plus besoin de payer l'IR en fait. Donc vous allez investir via cette holding dans l'immobilier, dans les trackers, etc. Et du coup, ça vous permet d'investir beaucoup plus d'argent puisque vous n'avez pas eu besoin de payer l'IR. Alors par contre, vous inquiétez pas, l'État va finir par vous rattraper à un moment ou à un autre parce que si à partir du moment où votre holding commence à gagner de l'argent grâce à vos investissements que vous voulez l'utiliser personnellement, il faudra vous verser l'argent et payer l'IR à ce moment-là. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que Si c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez investir comme ça pendant 10-20 ans. Et sur 10-20 ans, voire plus, ça fait une énorme différence dans le capital que vous aurez accumulé parce que vous pouvez gagner facilement 25, 30, 40%. Alors, ça dépend de plein de paramètres, mais par an d'argent en plus que vous aurez mis. Donc, vous savez que voilà, sur 10-20 ans, 30 ans, ça peut faire une différence énorme au capital à la fin et faire en sorte que vous ayez une retraite confortable versus une retraite où il va falloir vous serrer un peu la ceinture. Mais donc ici, pas besoin de faire ce genre de montage compliqué parce que de toute façon, il n'y a pas d'IS.
Pas besoin de payer de fiscalise, de créer une holding, parce que tout ça, c'est des frais. Et il n'y a pas de frais pour la société à l'année.
Il n'y a pas d'IS, il n'y a pas d'IR. Donc, ouais. Enfin, il n'y a pas d'IR tant que tu ne verses pas l'argent.
Exactement. Donc, c'est pas mal d'avantages. Autre avantage, vous pouvez tout faire en anglais aussi. Il n'y a pas besoin, parce que j'avais parlé avec des entrepreneurs qui étaient en Hongrie, Bulgarie, Lituanie, où la fiscalité est également intéressante. Mais à chaque fois, il faut passer par quelqu'un
qui parle la langue.
Donc, OK, ça se fait, ça se met en place. Mais voilà, c'est du temps de cerveau utilisé. C'est un petit peu pénible. Là, on peut tout faire en anglais à 100%.
C'est devenu une langue officielle ici.
Voilà, exactement. Alors,
en tout cas, je suis impressionné. Mais... Tout le monde parle extrêmement bien anglais. C'est vraiment impressionnant.
Donc, ça facilite vraiment la vie quand on est entrepreneur, qu'on ne veut pas se prendre la tête. Hein, voilà, j'ai jamais eu de problème.
Ils ont un très bon accent. Enfin, c'est
exactement.
C'est fou,
dans la vie, il n'y a que les gens, parfois au-dessus de 50 ans, qui auront peut-être un peu de mal avec l'anglais. Mais tous les gens de notre âge, jusqu'à 40, 45 ans, ils parlent anglais couramment. Donc, on peut faire ses courses, on peut voir le médecin.
On peut faire vraiment la vie quotidienne ici sans problème.
Voilà.
C'est comme les pistes qu'on y va, c'est vraiment impressionnant. Ouais.
Voilà, donc c'est super pratique. Et aussi, c'est une petite ville assez calme, assez sympathique, donc on peut se concentrer.
C'est vrai que c'est mignon. Hein. Bon, là, j'ai vu la vieille ville, c'est joli avec les restes médiévaux et tout ça. Mais alors, du coup, quels sont les inconvénients quand même de Tallinn, de l'Estonie?
Alors, les inconvénients, la ville est assez petite, on va dire. On en parlait avec toi, il n'y a pas de hub également au niveau aérien.
Si vous voulez voyager. Il y avait un vol la veille de mon départ et deux vols le jour où je suis parti.
Exactement.
Donc, c'est pas non plus…
Après, vous pouvez aller à Helsinki où il y a bien plus gros aéroport.
Et après, prendre un bateau, ouais.
Et prendre un bateau, bon, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, il y a Helsinki qui est pas très loin. Il y a Riga également, c'est le hub de Air Baltic. Air Baltic, c'est le Ryanair de l'Europe de l'Est où il y a pas mal de vols. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça directement à Tallinn. Quels sont aussi l'hiver qui est un petit peu froid, mais ça peut être vu comme un point positif dans le sens où on peut se concentrer sur son business parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de distraction. Si vous allez dans un pays où il fait beau, où il y a la plage, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, etc. Mais du coup, niveau business, ça avance pas trop. Là, ce qui est bien, c'est que s'il y a de la neige dehors, etc., on n'a pas trop grand chose à faire. Du coup, on travaille sur son business.
Je suis sûr que ce soit super vendeur, mais donc ça, c'est un des inconvénients et des avantages alors?
Pour moi, c'est un avantage, mais après, ça dépend de la perspective de chacun.
Après, comme tu me disais, tu vas pas forcément passer l'hiver ici.
Ouais, voilà, si je veux, je peux très bien aller 3-4 mois aux Canaries ou dans un autre endroit.
Alors, on est en Europe, les vols sont pas chers. Et puis,
Il y a des vols directs parce que les Estoniens, ils vont aux Canaries
assez
souvent.
Ah oui, des vols directs. Ok, d'accord, ça doit faire
c'est les vacances d'hiver pour les Estoniens, les Canaries. Voilà, ça doit faire ça, 4-5 heures. Comme ça, il fait 20-25 degrés. C'est parfait.
Ouais, j'étais à Tenerife, à Grande Canarie en décembre, il faisait 20-25, ce qui est quand même très sympa.
Ouais. Exactement.
Et puis Tenerife, l'hiver, c'est cool, hein, parce que tu es sur la plage et tu vois le volcan enneigé de la plage, c'est génial.
Excellent, c'est peut-être là où on va passer notre hiver, mais il faut juste, ça peut être sympa pour faire ça, habiter au moins 6 mois dans l'année ici, et le reste de l'année, vous pouvez voyager, avoir la résidence fiscale en Estonie, parce que du coup, l'impôt, comme on l'expliquait, il est assez limité, donc il y a pas mal d'avantages, parce que si vous êtes irrésident, là, c'est plus du tout la même chose, hein. Ça va dépendre de là où vous habitez. Au niveau de votre fiscalité, ça va être différent de la résidence fiscale estonienne. Donc, si vous habitez en Thaïlande, c'est la fiscalité de la Thaïlande qui va s'appliquer. Si vous habitez aux États-Unis…
Moi, j'avais fait une vidéo sur l'e-résidence parce que j'ai vu le chef du projet du programme e-résident qui a fait une intervention à Lisbonne il y a quelques mois. Du coup, je suis devenu e-résident pour le fun. Franchement, on vous met le lien en description. Vous pouvez aller vous inscrire juste après avoir vu cette vidéo. Ça prend littéralement 5 minutes. Hein, c'est vraiment fou. On vous demande de prendre un selfie en mode passeport, c'est-à-dire sans sourire, en mode vraiment poker face, ça prend quelques instants. Ça coûte 100 €, et puis un mois plus tard, grosso modo, ils vont vérifier que vous n'êtes pas un terroriste ou un criminel recherché par le FBI. Et si c'est bon, ils vous envoient la carte un mois après. Il faut aller chercher à l'ambassade de l'Estonie la plus proche.
Voilà.
Donc, moi, j'ai pris l'ambassade à Londres, et à partir de là, on a pareil, c'est une carte à puce. avec un lecteur USB qui permet de faire des démarches en ligne. Exactement. Mais apparemment, c'est plus utilisé par des nomades digitaux, donc des personnes qui voyagent tout le temps en fait et qui veulent garder une boîte dans un seul endroit, notamment en Union européenne avec un numéro de TVA, etc.
Voilà, c'est ce qui est mis en avant par le programme du e-résident, c'est de se dire, bah voilà, même si je sais pas, un an vous êtes en Turquie, un an vous êtes en Ukraine, un an vous êtes en Russie, un an au Japon, bah vous pouvez garder votre société sans avoir à fermer, recréer une société, etc. sans fin, c'est assez problématique. Voilà, vous avez votre société et vous voyagez où vous avez envie. Vous avez votre structure qui fonctionne avec, comme tu le disais, un numéro de TVA. On est dans la zone CEPA, dans la zone euro. Donc voilà, c'est super pratique à utiliser. Et voilà, il y a même des Japonais qui l'utilisent quand ils veulent s'implanter en Europe, parce que c'est, voilà, c'est le hub super pratique pour, pour démarrer.
Ils vendent aussi ça comme ça, comme un point d'entrée dans l'Europe pour les gens qui ne sont pas dedans et pour qui ça serait galère. Parce que donc, être e-résident, ce n'est pas un visa, ce n'est pas un droit d'aller vivre ici. C'est juste le droit d'utiliser l'infrastructure numérique de l'Estonie. Et donc, ça inclut le fait de créer une entreprise et tout ça. Mais donc, effectivement, il ne faut pas confondre la possibilité de créer une boîte en Estonie avec le statut fiscal, c'est différent. Alors là, après, c'est extrêmement complexe.
Ça dépend d'où,
de la situation dans laquelle vous êtes. Il faut toujours voir un spécialiste dans ce cas-là. Mais grosso modo, dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez une entreprise en Estonie que vous allez payer vos impôts là. Vous allez sûrement payer vos impôts là où vous vivez. Donc, si vous vivez en France, par exemple, ou en Belgique, j'en sais rien, moi, à Tombouctou, vous avez créé une boîte en Estonie, mais ça va être considéré fiscalement comme une entreprise de pays où vous vivez.
Donc les avantages là sont plus limités.
Donc là c'est plus fiscal, mais par contre du coup il y a l'intérêt d'avoir un pied dans l'Europe, que administrativement c'est beaucoup plus, plus cool.
C'est bien plus léger, hein, puisque bah, comme je vous disais, ça prend une heure. Alors on est résident, pour avoir le compte bancaire ça va être un peu plus long que les résidents, mais voilà, ça reste non plus pas très compliqué. Il y a Olvi, une banque finlandaise qui est spécialisée pour les e-résidents. Il y a l'Epine également.
Ça permet de créer sa boîte extrêmement facilement.
Voilà, ils vous accompagnent pour créer votre société, etc.
Et il y a TransferWise avec leur compte Borderless qui peuvent aussi…
Voilà, vous pouvez utiliser ça au début si vous voulez démarrer rapidement avec le Borderless account. Alors après, si vous voulez vous verser un dividende, il faudra passer par une banque estonienne. Alors, ils essayent de changer la loi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais voilà, pour démarrer au début, c'est très bien le Borderless account. Comme tu disais, ou Olvi, il vous ouvre un compte très rapidement, donc c'est assez pratique. Et le e-résident, c'est une autre fonction, c'est pour toutes les personnes qui vivent dans des pays où le système bancaire n'est pas tip-top. J'ai eu le cas de gens qui sont venus ici, un Ukrainien, une personne en Turquie, par exemple, vous faites des services informatiques, vous voulez vous faire payer, c'est franchement la galère. Le fait de devenir e-résident, ça leur a changé la vie. Donc ils ont leur société du coup en Estonie.
C'est pareil pour les gens en Afrique.
Voilà, exactement.
Des Marocains qui veulent se faire payer par virement, peut-être que c'est la galère.
Exactement. C'est la même logique que le Stripe Atlas, où ils veulent rendre le processeur de paiement utilisable à tout le monde. Donc, vous soyez au Kenya, en Éthiopie, ou à la base, c'était compliqué pour vous faire payer si vous travaillez avec des Européens, des Américains. Là, ils permettent à tout le monde d'avoir l'accès à l'infrastructure estonienne. Il vous faut juste connexion Internet.
Oui, mais Stripe Atlas, c'est pour créer une boîte aux États-Unis, je crois que c'est au Delaware.
Mais là, l'idée du e-résident, c'est un petit peu la même philosophie, même si c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, l'idée, c'est de permettre à des gens qui, à la base, n'auraient pas forcément une infrastructure bancaire bonne. Vous êtes au fin fond du Cambodge, par exemple. Je sais pas s'il y a des banques, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que ça va pas être simple.
J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de Cambodgiens qui sont au courant du programme, mais effectivement, pour des gens comme eux, ça peut vraiment être.
Ça leur change la vie. En Ukraine, je sais qu'il y avait des difficultés pour les gens qui font de la programmation pour se faire payer parce que les banques leur bloquaient l'argent ou c'était converti en monnaie locale. Après, il y avait de l'inflation ou leur argent était bloqué pendant 15 jours. Vraiment, de devenir irrésident pour tous ces gens-là, ça leur changeait la vie. Ils pouvaient développer leur entreprise au lieu d'être bloqués tout simplement. Donc, ça pouvait permettre de créer beaucoup de valeur. Donc, très bon programme et on va voir comment ça va se développer dans le futur.
C'est assez intéressant. Moi j'étais un peu sceptique quand j'ai fait la première vidéo sur le sujet, mais finalement je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ils ont réussi un coup marketing énorme et c'est vrai qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans leur infrastructure numérique. D'ailleurs, on va dire, il y a plein d'hommes politiques qui viennent ici. Je crois même qu'il y a le premier ministre français qui est venu à un moment.
Il y a le premier ministre japonais, c'est sûr. Ouais. Je sais, Abe, il est résident. Edouard Philippe est venu, le ministre de l'économie, pendant la Coupe du Monde, il était là. Il était dans la salle avec les supporters de foot. Donc je sais qu'il était là.
Parce que c'est vraiment un exemple de pays qui a décidé de faire un pas dans le futur.
Et c'est bien que la France s'en inspire de pouvoir en prendre des graines. Parce que ça fait des économies.
Parce que je veux dire, l'administration en France, c'est un gros point de friction, c'est évident. Les gens s'arrachent les cheveux avec ça.
Parce qu'ils font des économies. Ils font beaucoup d'économies. Enfin, d'un point de vue général, l'Estonie, ils n'ont pas de dette par rapport à la France parce qu'ils font des grosses économies. Ils évaluent ça à 2% du PIB d'économie. Le fait que tout soit numérisé, que toutes les bases de données soient connectées entre elles, etc., ça gagne un temps fou. Donc, imaginez ce que ça pourrait changer en termes d'économie si ça pouvait être la même chose en France ou dans d'autres pays. De pouvoir faire la même chose, que tout soit vraiment simplifié au maximum. Moi, ça me paraît un peu difficile parce que il y aura de la friction, etc. Il va y avoir de la résistance au changement. Je le vois quand j'en parle, on me demande souvent, mais aussi au niveau de la vie privée, la sécurité de nos informations, est-ce que le gouvernement ne va pas nous espionner, etc. Et en fait, vraiment les Estoniens, ça les inquiète pas parce que c'est extrêmement transparent. Si quelqu'un fait des recherches sur vos informations, vous le savez. Si par exemple, quelqu'un recherche votre appartement parce qu'il veut l'acheter, il veut savoir qui est le propriétaire de cet appartement parce qu'il a envie de l'acheter. Donc, il peut avoir accès à cette information, mais en même temps, vous le savez. Alors qu'en France, par exemple, on va voir le cadastre, etc. et on ne sait pas, les gens peuvent faire des recherches sur vous, vous n'êtes pas au courant. Là, tout est tracé.
Ah oui,
le banquier, s'il fait des recherches, vous faites un prêt à la banque, il veut rechercher des infos sur
vous. Tu vois dans son historique.
Etc. Vous pouvez savoir qu'il a fait ces recherches-là. Donc, du coup, ça n'inquiète pas vraiment les gens à ce niveau-là. Tout est transparent.
Parce qu'il y a même le dossier médical accessible avec ce truc, mais seulement à des personnes autorisées. Et tu peux aussi voir si ton médecin a eu accès au dossier médical, tu peux aller voir qui a eu accès à tout en fait.
Exactement.
Donc, s'il y a des gens qui ont accès à ton dossier médical, tu verras qui c'est.
Alors qu'on en rigolait avec Yoko, au Japon, ils peuvent regarder dans les feuilles parce que tout est sur papier, vous n'êtes pas au courant si quelqu'un a regardé, alors que là, vous êtes 100% au courant. Et les données, bien sûr, sont limitées. Hein. C'est le banquier, il a accès aux données bancaires, il n'a pas accès à votre dossier médical.
C'est logique, ouais.
Le médecin, il a accès.
C'est bien compartimenté.
Tout est bien compartimenté, etc.
Et s'il y a quelqu'un qui a un accès frauduleux, ça va se voir, de toute façon.
Exactement. Et je pense qu'ils sont en pointe là-dessus. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment de souci. En tout cas, c'est assez intéressant. Et de voir qu'on est bien organisé, la différence que ça a. Parce que la fiscalité est faible, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de service public. C'est un truc qu'on entend souvent en France, de dire « il faut payer des impôts pour les écoles, pour les routes, etc. » Alors qu'ici, la fiscalité est beaucoup plus légère et pourtant, il y a des routes, tu as pu le voir, tout fonctionne.
Oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des routes. Ouais.
Les transports sont gratuits, etc. Parce que vraiment,
les transports sont gratuits ?
Pour les résidents de Tallinn, les transports en commun sont gratuits.
Génial, voilà. Avec le tram et tout, là.
On va passer... L'hôpital, moi, j'ai l'occasion d'y aller parce que ma femme va bientôt avoir un bébé.
Félicitations.
Merci.
Un bébé franco-japonais né en Estonie, c'est la mondialisation.
Exactement. Les nomades, on est un peu partout. Et j'ai eu l'occasion de voir comment ça marche et le système fonctionne excellemment bien. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est moderne, il y a tout ce qu'il faut.
Et donc, grâce à ce que tu peux en cotisation sociale, tu n'avais rien à payer du tout.
Non, on n'a quasiment rien payé. Alors, on se verse chacun un salaire de 500 euros, donc ça doit faire 177 euros de charges.
Et le reste en dividende, donc c'est ça ?
Voilà, et le reste en dividende. Donc, c'est vous qui décidez de combien vous avez besoin de vous verser. Si vous avez besoin de 20 000 euros, vous allez payer 20%, donc ça doit faire 24 000 euros en tout. Donc, 4 000 euros qui va à l'État et 20 000 euros dans votre poche, et c'est terminé. Voilà, y a rien de plus.
Alors, du coup, 500 euros par mois, ça paraît peu, mais ce n'est pas ton salaire complet, on est d'accord. Hein. C'est juste partie que tu te verses en salaire pour pouvoir bénéficier de
Parce que le salaire coûte plus cher que les dividendes, du coup, il n'y a pas d'intérêt à se payer plus. Les Estoniens, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils préconisent de faire, c'est de verser un salaire minimal pour avoir accès aux prestations de santé, etc. Et le reste en dividendes, c'est ce que tout le monde fait ici, donc y a pas, c'est assez normal.
Mais alors, du coup, pour avoir un ratio, tu peux par exemple te payer un quart en salaire et trois quarts en dividende, ça passe ?
Oui, absolument.
Il y a un ratio particulier à respecter quand même ?
Non,
tu ne peux pas faire juste 1%.
Il y a même des personnes qui ne se versent aucun salaire et qui prennent une assurance privée qui se payent tout en dividende.
Et ça passe.
Et ça passe. C'est juste que si vous allez à l'hôpital, il faut
vous débrouiller. En Angleterre, c'est aussi autorisé, effectivement. En France, il faut mieux pas avoir une trop grosse disparité. Ça dépend. Après, Mais il vaut mieux se payer un salaire normal en France et après le reste en dividende.
Mais ici, non, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des questions que souvent les Français se posent, et quand on demande ça au comptable, il est étonné qu'on soit étonné. Comme quand je lui dis, mais c'est sûr, on peut faire de l'immobilier avec nos bénéfices d'infopreneur, on peut faire de la bourse directement, il n'y a pas besoin de créer une deuxième société, etc. Il a l'air là, mais non, mais pourquoi ça va compliquer? Il n'y a pas besoin.
c'est un autre monde.
Et ça leur paraît difficile à imaginer que faut faire des holdings, faut faire différentes structures, etc. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple. c'est la bonne philosophie de ce pays qui est assez sympa. Et voilà, il y a plein de services comme ça qui nous facilitent la vie. Donc, en y résidant, on s'en rend pas compte. Mais par exemple, pour voter, on peut le faire en ligne de chez soi. Il n'y a pas besoin de se déplacer au bureau de vote. Il y a un petit logiciel qui permet de le faire. Donc, au lieu que ça prenne, je sais pas, une demi-heure, bah là, ça prend une minute. Du coup, ça incite les gens à voter. Donc, c'est assez sympa. Pareil, bah, pour l'hôpital, vous avez accès à vos résultats médicaux directement dans une plateforme. Donc, c'est super pratique. Vous vous loguez, vous avez accès à tout. Ça va super vite. Pour se loguer au service bancaire, bah, vous utilisez toujours le même mot de passe de votre carte, comme tu l'expliquais. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un mot de passe pour la banque, je sais pas, un mot de passe pour l'opérateur de téléphone, un mot de passe pour l'Internet, un mot de passe pour l'électricité. Vous avez toujours le même, c'est celui de sa carte d'identité. Donc, ça, c'est assez pratique. Ça gagne beaucoup de temps.
Bon, super, je pense que là, tu fais un peu rêver les gens. Même si beaucoup se disent, bon, finalement, j'ai pas trop envie de venir vivre en Estonie. Bon, voilà. Bon, déjà, vous pouvez venir quelques jours, hein, ça fait toujours plaisir. Il y a la Finlande juste en face, donc.
Vous pouvez visiter les
Saint-Pétersbourg, pas juste à côté, il faut avoir un visa par contre. Et puis.
Voilà. La Lettonie, la Lituanie qui est pas très loin.
On peut se faire un tour baltique et scandinave.
Ouais, absolument. Vous pouvez faire Suède, Finlande, Saint-Pétersbourg, Tallinn, Riga. Et puis voilà.
Il faut juste prévoir le visa pour la Russie. Voilà, le reste, vous pouvez y aller comme ça, les mains dans les poches, tranquille. Enfin, si vous êtes européen.
Exactement.
Sinon, il faut un visa Schengen. Ouais, ok, bah super. Et du coup, donc c'est intéressant. Parle-nous un petit peu de ton business. Donc, un des trucs que tu fais, c'est que tu bosses pour ton frère, donc Maxence Rigottier. Tu es un petit peu son bras droit.
Exactement.
Tu es un peu le manager, je sais pas, de l'entreprise.
J'essaie de gérer l'équipe, de gérer les choses que Maxence lui prenne trop de temps à gérer parce que voilà, il veut se concentrer sur créer du contenu, envoyer des emails à la mailing list, publier des vidéos, enfin les choses qui ont le plus fort de valeur ajoutée, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à gérer quand on est entrepreneur. Donc, je m'occupe de superviser tout ça, que tout se passe bien au niveau des tâches opérationnelles, administratives.
Et donc, tu as aussi ton propre business.
Et j'ai mon propre site également, jonathanrigottier.com, que vous pouvez retrouver, dans lequel je parle de l'Estonie, si vous voulez plus d'infos dans le détail.
Voilà.
Je montre plein de côtés pratiques, genre si vous êtes entrepreneur, comment s'installer, comment créer sa société, etc., le climat. Enfin, je réponds à pas mal de questions qu'on me pose en général. Je parle également de bourse. J'ai une partie bourse, c'est une des choses qui m'intéresse aussi pas mal. Et je vous parle d'une banque nouvelle génération, une autre innovation assez sympathique également pour nous faire gagner du temps et de l'énergie. Notamment Bunk, TransferWise, on en parlait hier.
Ouais, tout les banques, les néo-banques, effectivement.
Voilà, donc tout ça, je le documente sur mon site parce que c'est mes passions, c'est les choses que j'aime faire. Et donc vous pouvez retrouver plein d'infos là-dessus en allant sur jonathanrigottier.com.
Et je crois que tu as aussi une formation sur comment s'implanter en Estonie, c'est ça?
Voilà, j'ai une formation complète dans laquelle je vous montre de A à Z comment faire. Si vous arrivez ici, vous vous dites, mais comment je fais pour avoir ma carte de résident? Comment ça marche signature digitale. Alors moi, je vous montre toutes les étapes, comment trouver son appartement. Je vous montre les différents quartiers de Tallinn selon ce que vous recherchez, les démarches précises où faut aller pour avoir votre carte de résident. Ensuite, comment l'utiliser avec la signature digitale. Je vous montre comment créer sa société. Je filme mon écran, je vous montre tout ça. Je vous donne les coordonnées du comptable que moi j'utilise. Je vous explique comment ouvrir votre compte boursier au nom de la société. Je fais tout de A à Z et voilà, si vous restez
questions. Et vous aurez aussi un petit massage des pieds, voilà.
En bonus. Non mais voilà, j'essaye de faire un truc qui soit assez sympathique pour que les gens qui viennent ici, ils puissent s'installer confortablement. Moi, c'est ce que j'aurais aimé quand je suis arrivé, parce que c'est vrai que je me posais pas mal de questions, comment ça va se passer, etc. Là, j'ai défriché le terrain pour vous et comme ça, il suffit de recopier. Et puis, de toute façon, quand il reste des questions, vous me demandez sur Facebook et je réponds assez vite en général parce que les gens qui viennent ici, ça devient un peu des amis. Voilà, on est entrepreneurs.
Il y a combien d'entrepreneurs francophones là ici?
Il doit y avoir une dizaine d'entrepreneurs. Donc,
il y a quand même un petit hub qui est en train de se créer.
Voilà, il y a un petit hub qui se crée. Il y a des gens comme toi qui viennent de temps en temps. Donc, ça permet de faire des rencontres sympathiques. Et vu qu'on n'est pas encore très nombreux, ce qui est sympa, c'est qu'on a l'occasion de se rencontrer de temps en temps, de faire des petits masterminds, de discuter. Voilà, on a des gens qui font de l'infoprenariat, des gens qui font de l'e-commerce. Donc, ça permet de mettre des complémentarités différentes, d'échanger. On a des bons brainstorming, c'est assez sympathique. Parce que si vous êtes à Paris, la communauté est assez grosse et ça devient plus compliqué.
Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, on vous a mis le lien vers la formation de Jonathan puis son blog donc dans la description. Écoute, waouh, merci d'avoir partagé
merci
tout ça avec nous.
Merci Olivier, à toi de nous avoir fait petite présentation de l'Estonie qui, je pense, va intéresser pas mal de monde parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais pas très loin de chez nous, il y a des belles innovations.
Puis, je veux dire, c'est tellement impressionnant l'Europe, cette diversité qu'on a à 2 heures de vol, c'est de quasiment tout. C'est
absolument.
Fou. Et ça fait partie des choses à explorer, ce pays intéressant qui est en train de disrupter finalement. Puis en plus, ils ont quand même annoncé récemment qu'ils allaient sans doute, probablement lancer une crypto-monnaie.
Alors ça, c'est un autre sujet, mais exactement, ils veulent lancer le East Coin, donc ils auront leur propre crypto-monnaie. Mais pour l'instant, le projet est un
trilobloqué. C'est la première crypto-monnaie appuyée par un État.
Voilà, exactement. Et l'idée, c'est vraiment de financer des projets par crypto-monnaie au lieu de le faire par bons du trésor. Habituellement, l'État émet des bons du trésor pour financer des projets. Là, ils voudraient le faire par crypto-monnaie, nouveau pour innover. Donc ça bloque un petit peu au niveau de la Banque Centrale Européenne qui est contre, etc. Bon, ils essayent de contourner un peu. Mais bon, on va voir. Mais c'est encore un projet innovant. Et c'est bien dans l'état d'esprit de ce pays, d'innover, de simplifier la vie aux gens, etc., d'avancer. Et on va voir ce que nous réserve le futur. Mais tu as raison, c'est un beau projet qu'ils mettent en place.
Donc, à surveiller en tout cas, c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec nous.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.